Alors, cette semaine, j'étais en train de terminer ma lecture de l'Exode. Et je suis arrivé dans les derniers versets, qui sont très parlants. Et on peut lire ensemble les dernières paroles que Moïse a dit dans ce livre de l'Exode. Donc, c'est Exode chapitre 40, versets 36 à 38. Il est écrit « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle, et 2 nuits il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour ce moment ensemble autour de ta parole, autour de ce que tu nous dis. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, et tu as voulu nourrir nos âmes. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et c'est vrai, Seigneur, notre esprit a besoin de tes paroles. C'est notre nourriture, notre pain. Seigneur, c'est ce qui nous aide à vivre, à voir clair et à être éclairé dans notre condition aujourd'hui pécheresse. Merci de bénir ta parole maintenant, de bénir, de me faire grâce aussi, de me cacher en toi et de nous faire du bien par Jésus-Christ. Amen. Et donc les Israélites ont marché pendant 4 décennies, donc pendant 40 ans, et ils gardèrent les yeux fixés sur la nuée le jour, donc c'était comme une sorte de nuage qui les menait dans le désert. Il n'y a pas beaucoup de nuages, vous savez, mais là il y en avait un qui était en train de les mener. Et puis la nuit, eh bien, c'était comme une colonne de feu. Dieu se manifestait d'une manière visible pour qu'ils sachent quelle direction prendre et où aller. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Et si elle s'élevait, alors ils pliaient le camp et hop, ils partaient et ils suivaient cette nuée. On est ici dans l'Ancien Testament. Un autre verset. Prenez Jérémie, ou sinon ça va être affiché. Jérémie 10 et verset 23. Jérémie 10. Verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Là encore, c'est une parole de l'Ancien Testament, c'est le prophète Jérémie qui exhortait ses compatriotes à accepter de porter le joug de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar était là en train de commencer à régner un peu sur toutes les nations et les pays alentours. Et Jérémie leur parlait de la part de Dieu. Il leur disait, mais restez dans le pays, acceptez la domination de Nebuchadnezzar. Ne bougez pas. Alors, il va rien vous arriver. Vous vivrez, certes, avec une autorité au-dessus de vous, mais vous serez en paix. Vous serez en paix, vous jouirez de votre pays et tout ira bien. Mais ils ont refusé d'écouter le prophète de Dieu et ils ont voulu partir en Égypte. En fait, ils voulaient être libres. On est libre, on fait ce qu'on veut. Voilà, on n'est pas obligé de nous soumettre à ce prophète de Dieu. Ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Et Jérémie se parle à lui-même et il nous dit en même temps à nous, il dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Et c'est un vieux problème ici, c'est un vieux problème. L'homme, depuis l'origine, depuis le commencement, a du mal à accepter l'autorité divine sur lui, sur sa vie. Alors il veut s'affranchir, il veut se libérer de Dieu. Il cherche ce qu'il pense être la liberté. Je veux être libre, laissez-moi être libre. Et en guise de liberté, en fuyant Dieu, en refusant de se soumettre, il tombe dans un esclavage. Un esclavage qui le blesse, qui le meurtrit et qui finit par le laisser mort. On a évoqué un petit peu la semaine dernière, au commencement, Adam et Ève étaient libres dans un cadre qui était défini par Dieu. Et dans ce cadre idéal, paradisiaque, c'était ça, un cadre paradisiaque, ils étaient entièrement libres. C'était pas un asservissement difficile, hein, ils n'étaient pas enchaînés. Il y avait juste une restriction qui avait valeur de test. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malgré le bonheur dont ils jouissaient dans ce jardin d'Éden, tenté par le serpent, ils ont voulu goûter à une autre liberté, une fausse liberté. Et donc, ça a été le choix de l'indépendance de Dieu. Je fais ce que j'ai décidé. Ça a été le choix de la désobéissance. Je me permets de désobéir à ce que Dieu m'a dit clairement. C'était le choix de l'insoumission. Je n'accepte pas que Dieu, eh bien, soit l'autorité au-dessus de moi. Et donc, c'était le choix de la rébellion. Quand on parle simplement de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Indépendance, voilà, bon, ça semble pas très très grave. Hein, après tout, n'a pas-t-on le droit d'être un peu indépendant, hein, de faire un peu ce qu'on veut? On est libre, on a le droit de choisir soi-même. Mais est-ce que l'indépendance de Dieu, finalement, c'est pas l'embryon de la rébellion? C'est l'embryon de la rébellion. Qu'est-ce que c'est la rébellion? C'est un refus de se soumettre à l'autorité. Je ne veux pas obéir à l'autorité. Et l'autorité suprême, l'autorité au-dessus de tout, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toute chose, c'est quelque chose de certain. Alors, eh bien, quand on n'obéit pas à Dieu, à ce qu'il demande, quand on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire, hein, ou quand on veut faire sans lui, sans se soucier de lui, eh bien, on est en train de manifester de la rébellion. C'est de la rébellion, notre indépendance, hein, est de la rébellion. Alors, est-ce que je suis rebelle? Oui, je suis rebelle quand j'ai pas envie de faire ce que Dieu me dit de faire. Je suis rebelle. Ou quand je veux vivre ma vie sans lui, sans, eh bien, voilà, le consulter et chercher à faire ce qu'il me demande. C'est une forme de rébellion. Et si le serpent a planté dans le cœur d'Ève puis d'Adam, eh bien, cette rébellion, hein, cette racine, on l'a héritée, puisqu'on est aussi des enfants d'Adam et Ève. Paul, quand vous prenez les épîtres, il parle à plusieurs reprises des fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. C'est qui? En fait, c'est toute l'humanité qui veut vivre dans l'indépendance, qui veut vivre sans Dieu. Il dit, c'est des fils de la rébellion. Ce sont des rebelles dans leur cœur. Mais on ne gagne rien à être rebelle. On ne gagne rien à être rebelle. D'abord parce que cette pseudo-liberté, hein, de vouloir s'affranchir de Dieu, c'est une chimère, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Hein, on se dit, oh, je veux être libre. Je me souviens quand j'étais jeune, je fréquentais des lieux que je ne fréquente plus, et il y avait une chanson, et dedans il disait en anglais, « We want to be free to do what we want to do. » On veut être libre de faire ce que nous voulons faire. Voilà, c'est la rébellion. Je veux être libre, entièrement libre. Mais c'est une chimère. Ça n'existe pas, cette liberté. Le serpent a fait miroiter à Ève qu'elle serait libre, connaissant le bien et le mal. Mais en réalité, elle connaissait déjà le bien, simplement en choisissant de le faire. Ça y est, elle le connaissait. Et elle connaissait le mal, eh bien, c'est ce que j'ai décidé de ne pas faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en chutant, eh bien, elle a connu le mal par expérience. Ah, le mal, c'est ce que je suis en train de faire. Et le bien, c'est ce que je n'ai pas voulu faire, en fait. Elle le connaissait. Et il n'y a que deux états possibles pour l'homme. C'est celui de l'obéissance à Dieu et de la pratique de la justice, ou celui de la désobéissance et de la pratique du péché. Et il n'y a que ces deux états-là. Et on oscille soit de l'un à l'autre, mais il n'y a pas d'autre état intermédiaire. Dans Romains 6,16, je vous lis ce verset. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et donc, il n'y a pas de position intermédiaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on oscille de l'un à l'autre. Donc, il n'y a pas de liberté, de vraie liberté, quand on dit « je veux m'affranchir de Dieu ». Ensuite, on ne gagne pas à être rebelle parce qu'il y a des conséquences à la rébellion. Et j'aimerais vous lire plusieurs versets à ce sujet. Pas la peine de les prendre, mais je vous les lis. Psaume 106, verset 43. Plusieurs fois, Dieu les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Et une des conséquences de la rébellion, c'est le malheur. Ils sont malheureux, c'est la tristesse. Le péché ne rend pas joyeux. Alors bien sûr, celui qui pratique le péché, au départ, il y a un moment de jouissance. Forcément, sinon il ne le ferait pas. Donc il y a un plaisir, mais c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose de futile et qui ne dure jamais. Et au final, eh bien, ça laisse un goût amer. Et on en revient encore et on en revient encore parce que ça ne satisfait pas. La pratique du péché ne satisfait pas. Elle est de très courte durée, sa jouissance. Et finalement, eh bien, ça nous reste en travers de la gorge. Ça rend malheureux celui qui le pratique. Un autre verset, Ésaïe 1:20, il dit « Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et Dieu s'adresse à son peuple d'Israël, et ce qu'il dit, c'est il dit « Ta rébellion aura une conséquence, c'est que il va y avoir une opposition, un mur face à toi. Je vais m'opposer à toi, en fait. » Si tu es rebelle. Un autre verset, Ésaïe 63:10, il dit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » La rébellion fait que Dieu combat contre nous. On connaît ce verset, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui nous délivrera? On ne peut pas s'opposer à Dieu. Et la rébellion fait que Dieu s'oppose à nous. Il nous arrête. Un autre verset, Ésaïe 1:28, il dit « Mais la ruine atteindra tous les rebelles et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. » Et le péché conduit irrémédiablement à la mort. Il périra, le rebelle. Et donc l'homme ne gagne rien à la rébellion. Simplement un sentiment éphémère, et trompeur de liberté. Alors, est-ce qu'on est condamné finalement à l'esclavage? Puisque je vous ai dit, on oscille de l'un à l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas être libre de faire ce que nous voulons? Oui, il y a une liberté. Il y a une vraie liberté. Mais elle ne se trouve pas dans la désobéissance à Dieu. Ce n'est pas là qu'est la liberté. En réalité, la vraie liberté, elle se trouve dans la dépendance de Dieu. Alors, ça paraît surprenant pour celui qui ne connaît pas Dieu, mais la vraie liberté, elle est dans la dépendance de Dieu. Et c'est le titre que j'ai mis en haut de ce message, « Libre dans la dépendance de Dieu ». Libre dans la dépendance de Dieu. Est-ce que vous connaissez cette liberté dans la dépendance de Dieu? On a lu tout à l'heure le passage de l'Exode où les Israélites suivaient la nuée durant leur marche, là, de jour, de nuit, quand Dieu leur disait d'avancer, la nuée se levait, ils partaient. Et cette longue traversée du désert, 40 ans, avait deux raisons. La première, c'était que la génération des rebelles, qui n'avaient pas voulu entrer dans le pays de Canaan quand Dieu leur avait dit « Allez-y, je vous donne ce bon pays. » Ils avaient dit « Oh non, il y a des géants, etc. » Il fallait que toute cette génération, elle passe, elle trépasse, elle meure. Et que ces rebelles, laissent place à une nouvelle génération. Ça, c'est la première raison des 40 ans. Mais si vous regardez bien, il y a une deuxième raison des 40 ans dans le désert. C'est que leurs enfants ont appris la dépendance de Dieu. Parce que pendant 40 ans, eh bien, quand la nuée se levait, on y va. La nuée s'arrête, on déploie le camp. Et pendant 40 ans, les enfants ont vu ça tout petit jusqu'à devenir des adultes. Et ils ont appris que c'est Dieu. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, mais c'est à Dieu de nous conduire et à nous de le suivre. Ils ont appris cela en sorte que Dieu s'est préparé un peuple fidèle. Et quand Josué a dit « Nous allons au pays de Canaan », eh bien, ils ont tous suivi et ils étaient fidèles, prêts à obéir à Dieu. Et quand Dieu appelle quelqu'un à la conversion, quand Dieu nous appelle à venir à Jésus-Christ, à croire en Jésus, il nous appelle simplement à revenir à Dieu, ou à venir à Dieu, à venir à l'obéissance, à venir à la soumission, à la dépendance de sa personne. On sait que les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas la grâce d'être scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur eux, il les influençait, il les poussait, il les inspirait, puisque les prophètes ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ah pardon, j'ai cru que quelqu'un me parlait. Donc, mais le Saint-Esprit était sur eux, mais ne scellait pas. Il ne les scellait pas, il n'était pas en eux. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, on a la grâce, si on a cru en Jésus-Christ, si on l'a reçu comme son sauveur, d'être scellé. Il vient habiter dans notre cœur. Donc, il y avait une différence entre les croyants de l'Ancien Testament et nous. Et pourtant, combien les croyants de l'Ancien Testament sont des exemples pour nous, eut égard à la dépendance de Dieu. Dieu leur avait déjà révélé l'importance d'être dépendant de sa personne. Et notre salut à tous n'est pas dans l'indépendance, il est dans la vie dépendante de Dieu. Dans les psaumes, par exemple, je vous lis des versets où il est dit, c'est David, il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Il dit encore « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et on voit combien la volonté de Dieu, c'était important pour lui. C'était important pour ses croyants. « Je veux faire ta volonté, qu'elle soit au fond de mon cœur. Conduis-moi. » Regardez, David, combien de fois il est écrit « David consulta l'Éternel. » David consulta l'Éternel. Tout le temps. Je veux être dépendant de toi. Qu'est-ce qu'il nous enseigne à nous, chrétiens, aujourd'hui? Regardez même Job. Job, on pense, a vécu avant la loi de Moïse. Et Job dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'ai fait plier ma volonté. Seigneur, ce que tu me dis, c'est ça. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était déjà un précurseur. Ils étaient soucieux de faire ce que Dieu veut. De même Salomon. Salomon va dire dans Proverbe 3, 5, 6, il va dire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Dieu dans toutes ses voies? En fait, c'est le chercher, c'est chercher sa volonté et c'est l'introduire dans tout ce que l'on fait. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que... Voilà, on l'introduit dans tout ce que l'on fait, on lui demande ce qui est bien, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est facile de s'appuyer sur sa sagesse et dire « Oh, ben, j'ai envie de faire ça, bon, je le fais. Oh, j'ai envie d'aller par là, ben, hop, et je fais ce que je veux. » C'est très facile ça, naturellement on est comme ça. Mais c'est autre chose de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté ?» Les croyants du passé avaient reçu déjà que la dépendance de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel pour réussir, pour avancer, pour être gardé, pour faire ce que Dieu a prévu que nous fassions. Et puis pour voir Dieu à l'œuvre. Et puis, les années passent, les siècles passent, les millénaires passent, et Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ, Fils du Père éternel, Dieu lui-même, Dieu en personne, et il va prendre sur lui de descendre de sa position élevée pour devenir un homme comme nous, et il va dire, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il descend, et là, dans sa condition humaine, que va-t-il se passer? On voit un homme entièrement dépendant de Dieu. Entièrement dépendant de son Père, en parole, en acte. C'est même quelque chose d'impressionnant qu'on se dit, mais c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'homme a parfois l'idée que de dépendre de Dieu pour tout, ben c'est absurde quand même, on ne va pas dépendre de Dieu pour tout, c'est insensé, c'est ridicule. Mais le Fils éternel de Dieu ne s'est pas senti brimé. Il ne s'est pas senti frustré ou enchaîné d'une manière désagréable à la volonté de son Père, non? Il a vécu entièrement en faisant ce que son Père lui disait de faire. Et il était, tout allait bien. Au contraire, il a manifesté sa joie de faire la volonté du Père. Prenez le récit de la Samaritaine en Jean 4. Vous remémorez-vous cette histoire? Et c'est intéressant de voir ce que Jésus a dit à ses disciples. On va le prendre. Hein. C'était midi. Les disciples étaient partis chercher à manger. Ils reviennent. Ils n'ont aucune idée en tête. C'est « on va manger. Ah, ça va être bon. » Ils arrivent. Et voici ce que le Seigneur dit. Regardez, on va lire Jean 4, versets 32 à 34. Jean 4, versets 32 à 34. « Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Ils sont marrants, hein. Ils se disent, « Mince, on nous a doublés. Il y a quelqu'un qui leur a déjà amené un sandwich. » Non. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, mon pain, c'est la volonté de Dieu. C'est de faire ce qu'il me dit. C'était donc son bonheur, c'était sa joie. Jésus était entièrement et tout le temps dépendant de son Père, dans les actions et dans les paroles. Mais dans ce passage, au verset 32, Jésus commence par dire, il dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Que vous ne connaissez pas. Et les disciples, ben, ils n'étaient pas habitués à chercher la volonté de Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, en fait. Hein. Ils vivaient, voilà. Hein. Alors, c'est sûr, pendant qu'il y avait le Seigneur, ben, ils suivaient le Seigneur. Mais ce n'était pas une habitude dans leur vie. Et peut-être que c'est notre cas. Peut-être que cette nourriture, on ne la connaît pas. Ou on n'en a pas mangé suffisamment. On n'a pas goûté combien c'est bon de faire la volonté de Dieu. Combien c'est merveilleux. C'est voilà, ça rassasie. Est-ce que nous connaissons cette nourriture? Parce que nous aussi, chrétiens, nous devons apprendre à faire sa volonté. Et la vie chrétienne, c'est un apprentissage, justement. C'est qu'un apprentissage à faire sa volonté. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous est parlé des anges, des êtres célestes. Et voici ce que dit le prophète en Ézéchiel 1:12. Il dit « Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ne se tournaient point dans leur marche. » Les anges servent Dieu en allant droit devant eux. C'est la direction. On y va droit. On ne cherche pas à aller ailleurs. Faisant exactement ce que Dieu les appelle à faire et heureux dans la volonté de Dieu. Et c'est là une difficulté pour l'homme, c'est de comprendre que de choisir d'aimer et de servir Dieu, c'est bien meilleur que l'indépendance et le péché. Bien meilleur. Jésus aussi allait droit devant lui, là où l'esprit le poussait à aller. Quand on lit Marc, le début de l'évangile de Jean, il est dit « Aussitôt l'esprit poussa Jésus au désert. » Et Jésus se laisse conduire par l'esprit. Il fait exactement ce que l'esprit le pousse à faire. Est-ce que c'est possible que pour nous, chrétiens, eh bien, ce soit différent? Non. Ça ne peut pas être différent. Si on est converti, si on a reçu le Seigneur, alors le Saint-Esprit est en nous. Et lui aussi, il veut nous pousser dans la volonté du Père. Continuellement, fais la volonté du Père. Reste dépendant du Père. Et nous aussi, on a à manger cette nourriture. Entendre sa voix. Faire ce qu'il nous demande. Le Seigneur a donné un exemple afin que nous fassions comme il a vécu, comme il a fait. Et on doit apprendre à regarder avec les yeux du cœur, c'est-à-dire avec l'esprit. Apprendre à regarder Dieu avec l'esprit. Et on est capable. On a un esprit. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, il ressuscite quelque part, il régénère notre esprit en sorte que, ça y est, la connexion est rétablie. On peut voir Dieu avec les yeux du cœur, avec l'esprit de Dieu. Et on peut comprendre la volonté du Père. Très souvent, quand je suis à genoux, et je dis, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle direction prendre. J'ai deux choix, là. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? C'est un cri du cœur des fois. Hein? J'ai cette pensée qui me vient, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Pourquoi ? Parce que quand on se regarde à soi-même, on regarde aux circonstances, on a du mal à comprendre et à voir la volonté de Dieu. Et il faut arriver à dire, mais c'est le Seigneur que je dois regarder. Et il y a une manière consciente de dire, je regarde vers toi Seigneur, montre-moi ta volonté. Avec notre esprit, eh bien Dieu nous permet de discerner quelle est sa volonté. Souvent les choses s'éclairent quand d'une manière consciente on cherche à regarder à Jésus-Christ. On a un verset qui est parfois difficile à comprendre pour nous. C'est Romains 12, on va prendre les versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Et j'ai beaucoup aimé ce chant qu'on vient de chanter juste avant, puisque eh bien, dans le chant, ça reprend aussi ce texte. Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Et en lisant ce verset, la conclusion nous dit que la volonté de Dieu, eh bien, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et parfois, on a du mal à comprendre. On se dit, mince, c'est peut-être vrai pour certains, mais là, ce n'est pas vrai pour moi. La volonté de Dieu, parfois, elle semble difficile, désagréable, imparfaite. Comment se fait-il que la parole divine dise une chose et que moi, je puisse penser autre chose ? Où est le problème ? Mais c'est vrai que si on s'appuie sur nous en tant qu'hommes, si on s'appuie sur notre sagesse, eh bien on peut dire, ah ben non, c'est pas tout à fait vrai que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais Dieu nous dit de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, et ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Sa parole est vraie. Donc, si je ne vois pas les choses comme lui les voit, c'est que c'est moi qui ai un problème. C'est ma vision qui n'est pas correcte. Je ne vois pas d'une bonne manière. Mais alors, où est le problème ? Quel est le problème ? Et comment arriver à la même conclusion que les Écritures ? Comment expérimenter que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite ? Il y a une réponse d'abord dans le verset lui-même. Puisque Paul exhorte, au commencement du verset, il exhorte à offrir son corps comme un sacrifice vivant. Donc, voilà, je me mets à la disposition du Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux marcher avec toi. Et puis, il dit aussi de se laisser transformer par le Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence. Et Dieu veut nous apprendre à chercher sa volonté, chercher et avoir envie de la faire. Quelle est ta volonté ? Je veux la faire, montre-le-moi, je le veux. Et c'est là, quand on a cette attitude, que Dieu transforme, il nous renouvelle dans notre intelligence. Et il nous apprend à regarder les circonstances au travers de ses yeux à lui, et non plus au travers de nos yeux. Regarder les circonstances au travers de ses yeux. Quand on s'appuie sur sa sagesse, et qu'on regarde tout dans le prisme de notre réflexion, simplement, ben on est souvent insatisfait. Ça ne va pas comme on veut. Ça ne va pas assez vite, ou ça ne va pas comme on le souhaite, c'est pas agréable, c'est imparfait. Et donc c'est insatisfaisant. Mais Dieu ne se trompe pas, Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu est plus sage que nous dans la manière dont il fait les choses. Prenez avec moi si vous voulez un autre verset, c'est le psaume 37, verset 4. Il va être affiché, psaume 37, et on va lire ce verset 4, vous connaissez ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Waouh ! Et notre cœur désire tant de choses, parfois, Et il ne semble pas qu'on les voit arriver. Hein. Elles n'arrivent pas. Mais Dieu nous dit d'abord, fais de l'Éternel tes délices. Et, trois petits points, fais de l'Éternel tes délices. Alors parfois on se dit qu'on peut tout obtenir en fait, tout ce qu'on veut, c'est quand même merveilleux. Hein. Il suffit, je m'occupe du Seigneur et j'aurai exactement ce que je veux. Et on se trompe là, on se trompe. On se trompe parce qu'il y a une donne qu'on ne saisit pas toujours. C'est d'abord, qu'est-ce que faire de l'Éternel ses délices? Faire de l'Éternel ses délices, c'est pas juste je vais prier un peu plus ou je vais lire un chapitre de plus. C'est pas ça. Faire de l'Éternel ses délices, c'est décider de donner la place à Dieu dans notre vie. Seigneur, remplis ma vie, je veux vivre pour toi, je veux que tu sois à la première place. C'est toi qui règles, tu es mon Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux dépendre de toi, je veux vivre pour toi, je veux que tu inspires mes pensées, mes décisions, mes paroles, je renonce à moi-même, je m'offre en sacrifice vivant, comme on vient de le lire. C'est ça faire de l'Éternel ses délices, c'est faire le choix de l'aimer, d'être attentif à sa personne. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça, faire de l'Éternel ses délices. Décider, je veux t'aimer, Seigneur. Je n'y arrive pas. Je suis faible en amour pour toi. Je veux progresser. Je veux t'aimer davantage. Je veux que tu remplisses ma vie. Seigneur, fais de l'Éternel tes délices. C'est se délecter, en fait, du Seigneur lui-même. Et quand on se délecte de Jésus, eh ben, notre cœur change, notre pensée change, nos désirs changent, tout change en nous. Il nous change. Et il est possible qu'au final, une fois qu'on a fait de l'Éternel nos délices, eh ben, on ne désire plus ce que l'on désirait avant de faire de l'Éternel nos délices. Parce que Dieu nous change. Il nous transforme. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu nous donne ce que l'on désire. Pourquoi ? Parce que nos désirs correspondent totalement à ce que Dieu désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est une vérité. Tu désireras des choses et Dieu te les donnera. Parce que tu auras Dieu à la première place dans ton cœur. Et c'est quand on en arrive là qu'on discerne, on voit la volonté de Dieu. On expérimente alors, oui, la volonté de Dieu est bonne, agréable, parfaite. Même si il y a des épreuves, même si parfois c'est difficile, même si parfois on a l'impression d'être secoué hein, par les circonstances de la vie, mais on se sait dans la volonté de Dieu, on se nourrit de la volonté de Dieu. Et on dit, oh, c'est bon Seigneur, je préfère être là où je suis maintenant, dans la dépendance de toi, que faire mon propre chemin, connaître aussi mes épreuves, mais sans toi. Non, non. Et donc à ce stade de maturité, de dépendance de Dieu, c'est pas un esclavage, c'est une liberté. On est libre, libre dans la volonté de Dieu, poussé par l'Esprit. Et ça devient un bienfait pour l'âme, se nourrir de sa volonté. Et on a la certitude de savoir pourquoi on vit. Et on est vraiment libre. Le verset qui était affiché durant le culte est « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous serez réellement libre. Et on est souvent prisonnier. Prisonnier de notre mauvaise volonté. Prisonnier de nos attachements coupables. Prisonnier aussi de nos désirs parfois qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Tout ça, ça nous rend malheureux. Et parfois notre vie, elle semble coincée, bloquée ou se traînant, souvent avec des lourds fardeaux qu'on porte sur les épaules. Mais si on veut être libre, il faut être dépendant du Seigneur. La vraie liberté, elle n'existe que dans la dépendance du Créateur. Et j'aimerais conclure avec un beau verset dans Jérémie. C'est une parole que Dieu dit, et il y a, voilà, Dieu parle, et il y a la réponse de ceux qui l'aiment. Regardez Jérémie 3, verset 22. Il dit, « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. » Et il y a la réponse, « Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, tu es Dieu, nous allons à toi. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner si on revient à lui. Il se lassera jamais de nous prendre dans ses bras et de sécher nos larmes, particulièrement si c'est des larmes de repentance. Il ne se lasse pas. Il pardonne même nos infidélités. Et la réponse adéquate, eh bien c'est « Merci Seigneur, voici nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. »